Cher Franklin, tu sais, j'essaie d'être poli. Alors quand mes collègues... Oui, que tu le crois ou non, je travaille dans une agence de voyage de Nayak et j'en suis ravie de surcroît. Quand mes collègues, donc, commencent à écumer sur le nombre aberrant de voix recueillies par Pat Buchanan à Palm Beach, j'attends qu'ils aient terminé, avec une patience si parfaite que j'ai fini par devenir un élément précieux. Je suis la seule personne du bureau à les laisser achever une phrase. Si l'atmosphère a soudain pris des allures de carnaval dans ce pays, un vrai festival d'opinions tranchées, je n'ai pas le sentiment de faire partie des invités à la fête. Je me moque de qui est président. Pourtant, cette dernière semaine, je ne la vois que trop bien à travers le filtre personnel de mes « si seulement ». J'aurais voté pour Gore et toi pour Bush. Nous aurions eu des échanges assez vifs avant l'élection, mais cela aurait été merveilleux. Grand coup de poing sur la table, porte qui claque, moi débitant des morceaux choisis du New York Times, tandis que tu aurais mis furieusement en avant certaines tribunes libres du Wall Street Journal, non sans retenir en permanence des envies de rire. J'ai une telle nostalgie des joutes futiles. Il n'était peut-être pas parfaitement honnête de ma part de laisser entendre, au début de ma dernière lettre, que lorsque nous discutions, à la fin d'une journée, je disais tout. Bien au contraire. Une des choses qui me pousse à t'écrire est que j'ai la tête pleine des menues anecdotes que je ne t'ai jamais racontées. N'imagine pas que je tirais plaisir de mes petits secrets. J'ai été prise à leur piège, malgré moi. Et autrefois, je n'aurais demandé qu'à ouvrir mon cœur. Mais, Franklin, tu ne voulais pas entendre. Je suis sûre que tu ne veux toujours pas. Peut-être aurais-je dû insister davantage, te forcer à écouter. Sauf que très tôt, quelque chose nous a séparés. Pour beaucoup de couples qui se disputent, ce qui les oppose peut rester assez flou. Une sorte de ligne, une abstraction qui les divise. Un passé, une vague rancune, une lutte inconsciente pour le pouvoir qui leur échappe, un écran de fumée. Il est possible que dans leur moment de réconciliation, l'absence de réalité de cette ligne contribue à sa dissolution. Avec jalousie, je les imagine remarquer « Regarde, il n'y a rien dans cette chambre, sauf de l'air que nous pouvons franchir. » Mais dans notre cas, la chose qui nous séparait n'était que trop tangible. Et lorsqu'elle n'était pas présente dans la chambre, elle pouvait débarquer quand bon lui semblait. Notre fils, qui n'est pas une accumulation de menues anecdotes, mais une longue histoire. Et bien que la tendance naturelle des conteurs soit de commencer au commencement, je résisterai à ce penchant. Il faut que je remonte plus loin en arrière, parce que bien des histoires sont écrites avant même de commencer. Qu'est-ce qui nous a pris? Nous étions si heureux. Pourquoi diable avons-nous fait tapis de tout ce que nous possédions pour nous lancer dans le pari fou d'avoir un enfant? Bien sûr, pour toi, le seul fait de poser cette question est sacrilège. Quoique les terrains infertiles soient voués aux fruits secs, il est contre les règles, n'est-ce pas, d'avoir un bébé et d'accorder la moindre minute de temps à cette vie parallèle et désormais bannie où l'on n'avait pas d'enfant. Sauf qu'une perversité toute pandorienne me pousse à priser ce qui est défendu. J'ai une imagination et j'aime les défis. Je savais aussi une autre chose sur moi. J'étais le genre de femme dotée de la capacité, pour immonde qu'elle soit, de regretter quelque chose d'aussi irréversible que l'existence d'une autre personne. Mais Kevin ne considérait pas l'existence des autres comme irréversible. Si ? Je suis désolée, mais tu ne peux pas imaginer que je vais faire l'impasse. Je ne sais peut-être pas quel nom lui donner à ce jeudi-là. L'atrocité semble reprise d'un journal. L'incident frôle l'obscénité par son côté réducteur. Et le jour où notre fils a commis un massacre est trop long, non ? Pour être systématiquement prononcé. Or, je vais le prononcer. Chaque matin, je me réveille avec ce qu'il a fait. Et chaque soir, je vais me coucher avec. Un piètre ersatz de mari. Je me suis donc creusé les méninges pour tenter de reconstituer ces quelques mois en 1982 où nous étions officiellement en train de décider. Nous vivions encore dans mon vaste loft de Tribeca, où nous étions entourés d'homosexuels purs et durs, d'artistes libres comme l'air, que tu accusais de complaisance, et de couples professionnellement actifs et sans fil à la patte, qui dînaient tous les soirs au Tex-Mex et traînaient au Limelight jusqu'à 3h du matin. Dans ce quartier, les enfants tenaient de la chouette tachetée ou autre espèce en voie de disparition, ce qui donnait forcément à nos délibérations un côté théorique et abstrait. Nous nous étions même fixé une date butoir. Quelle ironie. Mon 37e anniversaire, en août de cette année-là. Car nous ne voulions pas d'un enfant susceptible de vivre encore sous notre toit quand nous aurions franchi le cap de la soixantaine. La soixantaine. Un âge aussi étonnamment virtuel à l'époque que la venue d'un bébé. Et pourtant, j'embarque pour cette contrée étrangère dans 5 ans. Sans plus de cérémonie que pour prendre le bus. Le véritable saut dans le temps, je l'ai fait en 1999, même si le vieillissement, je l'ai moins vu dans le miroir que dans les signaux émis par les autres. Par exemple, lorsque j'ai fait renouveler mon permis de conduire en janvier dernier, le fonctionnaire au guichet n'a exprimé aucune surprise face à mes 54 ans sonnés. Alors que tu te souviens ? Il fut un temps où j'étais plutôt gâtée de ce côté-là, habituée à ce qu'on me dise régulièrement que je faisais 10 ans de moins que mon âge. Les flatteries ont cessé du jour au lendemain. J'ai même eu droit à un incident embarrassant, juste après ce jeudi, avec un agent du métro à Manhattan, qui a attiré mon attention sur le fait que, au-delà de 65 ans, on pouvait bénéficier du tarif senior. Nous étions d'accord pour dire que la décision de devenir ou non parent serait le choix le plus capital que nous aurions jamais à faire ensemble. Pourtant, c'est précisément l'importance cruciale de cette décision qui l'a toujours privée de réalité, la maintenant définitivement du côté du caprice. Chaque fois que l'un de nous soulevait la question de la parentalité, j'avais l'impression d'être une gamine de 7 ans, envisageant de commander pour Noël une poupée qui fait pipi. Je me souviens d'une série de discussions au cours de cette période, oscillant constamment entre le plutôt oui et le plutôt non. L'apogée de nos débats se situe sans doute dans Riverside Drive, après un déjeuner dominical avec Brian et Louise. Ils ne faisaient plus de dîner, car ils se soldaient invariablement par un apartheid parental. Un des époux jouait à l'adulte entre Olive Grec et Cabernet, l'autre contenant, baignant et couchant leurs 2 tornades de fillettes. Moi, pour la vie sociale, je préfère toujours le soir. Implicitement plus décontracté. Encore que la décontraction ait cessé de figurer parmi les qualités que j'associais à ce scénariste chaleureux, bien installé chez HBO, qui faisait ses pâtes lui-même et arrosait ses pots de fines herbes sur le rebord de sa fenêtre. En partant, je m'étais exclamé dans l'ascenseur. Quand on pense à la dose de coke qu'il sniffait.
Tu as l'air toute nostalgique, avais-tu remarqué.
Oh, je suis certaine qu'il est plus heureux maintenant.
Je n'en étais pas si sûre. À l'époque, je tenais encore pour suspect ce qui était sain. En vérité, nous venions de passer un moment très agréable qui me laissait dans une tristesse déconcertante. J'avais admiré la salle à manger en chêne massif, chinée pour une bouchée de pain dans une brocante de l'État de New York, tandis que tu te livrais à un inventaire complet des immondes poupées Cabbage Patch Kids de la cadette avec une patience qui m'avait époustouflée. Nous avions salué la salade inventive avec une ferveur ingénue, car le fromage de chèvre et les tomates séchées n'étaient pas encore has-been à l'époque. Des années auparavant, nous étions convenus que Brian et toi éviteriez le sujet Ronald Reagan. À tes yeux, une icône sympathique, accrochant bien la lumière et fiscalement candide, qui avait restauré la fierté nationale. Pour Brian, une figure du crétinisme menaçant qui mettrait le pays en faillite à coups de baisse d'impôts au profit des riches. Nous nous étions donc limités à des sujets inoffensifs, avec Ebony and Ivory en musique de fond à volume tolérable par des adultes, et j'avais fait taire mon agacement d'entendre les deux gamines chanter faux en même temps que la chanson qui passait en boucle.